Ah, c'est handicapant, ça. Hein. C'est parti. Bonjour, je suis Anne Boucharna, bienvenue dans Les Grands S'amusent. Aujourd'hui, c'est Thierry Dubois qui va nous transmettre sa passion de la Nationale 7, route mythique de Paris à Menton, qu'il parcourt en ancienne et qu'il connaît mieux que personne. Bonsoir Thierry, vous allez bien ?
Bonsoir Anne.
Je suis ravie que vous soyez avec nous ce soir.
Moi aussi.
Alors, vous êtes illustrateur et scénariste de bande dessinée. Vous êtes passionné d'automobile et collectionneur de voitures anciennes. Vous êtes féru d'histoire de France et réalisez depuis le milieu des années 1990 un travail de mémoire sur l'histoire des routes de France. Vous remontez le temps à bord de vieilles dames toutes fringantes, telles la Ford T, votre préférée, il me semble. Vous les bichonnez, les croquez à coups de traits de crayon, ronds, colorés, joyeux, dans vos chroniques de la Nationale 7. Au fil de vos nombreuses escapades, le coude à la fenêtre, vous prenez un plaisir fou à humer le parfum des essences qui défilent, à observer le moindre détail de notre patrimoine. Vous parcourez ces routes plusieurs fois par an avec des voitures d'époque, des anciennes. Vous reconstituez le passé en enquêtant minutieusement, interviewant les riverains, chinant de vieilles cartes postales. Vous êtes le Colombo de la Nationale 7, qui d'ailleurs conduisait une Peugeot 403 décapotable, c'est bien ça ?
C'est ça.
Vous avez constitué un patrimoine unique grâce à votre grande obstination. La route du soleil est votre terrain de jeu, c'est la route des vacances et des embouteillages aussi, on verra ça tout à l'heure. La voiture, c'est avant tout le symbole de la liberté, vous êtes heureux, je crois, sur la Nationale 7, pour faire un clin d'œil à Charles Trenet. Alors, je voulais savoir, que vous ont transmis vos parents ou vos grands-parents, Thierry ? Est-ce qu'ils avaient déjà ces passions pour les voitures anciennes, pour les routes ? Est-ce que c'était déjà leur passion ?
Disons qu'ils n'avaient pas la passion des voitures anciennes, mais ils avaient les voitures qui sont anciennes aujourd'hui. Donc, que ce soit mon grand-père, mes grands-parents ou mes parents, ils ont toujours circulé en automobile. Et nous-mêmes, tout petits, on avait droit à être les enfants à l'arrière de la DS. Et je vous avouerai que les souvenirs que j'en ai de l'époque, c'est quand même, comme tous les enfants, c'est que c'était long, les voyages, et qu'il faisait chaud et qu'on était pressés d'être arrivés. Mais bon,
c'était pas encore il y avait pas encore le déclic.
J'ajouterais juste que mon père, qui était ingénieur de formation, avait quand même une attirance particulière pour tous les travaux publics. Et donc, il n'était pas rare qu'on fasse un détour pour aller voir un nouvel ouvrage d'art, un pont, un bout d'autoroute. Et donc, je pense que ça a laissé quand même quelques gênes. Et même depuis cette époque, j'ai toujours regardé les routes différemment. Déjà, la façon dont on les a conçues, dont on les a construites. Et ça continue, quoi.
Ça continue, oui. Alors, j'ai vu que votre mère est belge.
Oui.
Donc, est-ce que c'est ça qui vous a donné un petit peu ce virus du dessin, de la bande dessinée ? Est-ce qu'il y a des Hergé, des Franquin ou des Tillieux ?
C'est sûr. Dans tout Belge, il y a un dessinateur qui sommeille.
Donc vous avez dessiné, en fait, vous êtes autodidacte, hein, c'est ça ?
Tout à fait, j'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours voulu dessiner. C'est pas des métiers faciles au départ, parce que on n'est pas connu, on n'est pas bon d'ailleurs, il faut beaucoup s'entraîner. Mais bon, avec obstination et opiniâtreté, on y arrive.
Vous y arrivez, oui.
Et je suis ravi, quoi. C'est vrai que je suis arrivé à peu près à faire ce que j'aimais, dessiner des vieilles voitures, rouler dans des vieilles voitures et puis étudier des vieilles routes.
C'est ça. Donc, alors, racontez-nous, quel est le tracé de cette Nationale 7 ?
Alors, la Nationale 7, je dirais, pour simplifier, c'est un cours d'histoire de France. Hein. C'est une route qui coupe la France en deux, enfin qui descend, qui traverse la France, qui va de Paris à la frontière italienne ou de la frontière italienne à Paris, si on se place historiquement, parce que c'est quand même par là que les Romains sont arrivés. Vous avez donc 2000 ans d'histoire de France qui se déroulent le long de la Nationale 7. Et puis il y a ces 30 ans de légende quand c'est devenu la route des vacances depuis la fin des années 30 jusqu'à la fin des années 60, quoi. Mmh. Et c'est ça qui en a fait le mythe. Petit, qui a été gravé dans le marbre par Charles Trenet et sa chanson.
C'est ça. Line 6, alors quelle est la différence de tracé justement?
Alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais pour faire simple, il y a globalement deux routes qui vont de Paris à Lyon.
Oui.
Elles font chacune, l'une passe à l'ouest, l'autre passe à l'est du Morvan. La Nationale 7 passe à l'ouest et la Nationale 6 passe à l'est. La Nationale 6, c'est la route vraiment historique. La numérotation, elle date de Napoléon. Donc avant, il n'y avait pas de numérotation. C'est lui qui a décrété la façon de numéroter les routes. Donc globalement, la route naturelle, c'est de prendre la Nationale 6 entre Paris et Lyon, c'est-à-dire par la Bourgogne, et ensuite de suivre la vallée du Rhône, la Nationale 7, et puis traverser la Provence. Et donc les deux routes ont toujours cohabité. Et il y a même eu une sorte de compétition, d'ailleurs, entre les deux, puisqu'on a créé des comités de tourisme pour essayer de ramener les gens plus sur la vraie, entre guillemets, Nationale 7, qui est la route qui passe par Nevers et Moulins. Et de toute façon, les deux, elles arrivent à Lyon, et à partir de Lyon, elles suivent le même chemin, la vallée du Rhône.
D'accord. Alors, le XXe siècle, donc c'est le siècle de l'automobile, hein. Avant, finalement, les gens ne bougeaient pas tellement de leur village.
Non, on disait que quelqu'un voyait tous les jours le clocher de son village, toute sa vie.
Oui, les gens traversaient, comme il n'y avait pas de voiture, ils traversaient la route sans regarder, donc ça, c'est inimaginable aujourd'hui. On voyait un peu l'automobile quand elle est arrivée, comme vous disiez, comme si c'était on voyait un hélicoptère aujourd'hui, en fait. C'est un peu l'équivalent.
C'était globalement un jouet pour Jean Friquet. C'est des gens, voilà, en plus ça servait à rien parce que ça tombait en panne, ça marchait mal, mais bon, on voyait débouler. En plus, les routes n'étaient pas asphaltées, donc il y avait beaucoup de poussière ou de la bouillasse, donc ça arrivait dans un équipage de furie en faisant du bruit, de la fumée, des mauvaises odeurs, des gens qui étaient habillés avec des lunettes, des manteaux, des choses, ça faisait peur. Et donc ce genre d'engin déboulait à 20-25 à l'heure au milieu d'un village, et c'est vrai que c'était l'affolement. Et donc la première réaction des gens, c'était de se protéger et donc d'essayer de chasser ce genre de choses. Donc il y a une cohabitation qui a été quand même très difficile au départ.
Oui. Et alors, comment les gens se sont adaptés justement à ces passages de voitures?
Je dirais que on dit souvent que le XXe siècle commence avec la Première Guerre mondiale, et c'est la Première Guerre mondiale qui va montrer à... Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la majeure partie des soldats étaient des paysans, donc habitaient dans les campagnes, et se sont rendus compte ce que c'était que la motorisation. Quoi. Qu'une voiture, il n'y avait pas besoin de la nourrir, il n'y avait pas besoin de la soigner, elle marchait toujours, et elle était beaucoup plus efficace qu'un cheval. Et donc c'est après vraiment la guerre de 14 que la voiture sera vraiment imposée dans le paysage. Quoi.
Parce que donc aux États-Unis, c'est Ford T
La Ford T, c'est une voiture donc qui me tient particulièrement à cœur parce que vu de l'extérieur, on peut penser que c'est un taco parmi les autres. Non, la Ford T, c'est la première voiture qui a été pensée non pas pour un côté loisir, vitesse ou quoi, mais pour un côté pratique. C'est la première voiture qu'on a pensée pour qui servirait à tout le monde. Et du coup, c'est la première voiture qu'on a commencé à fabriquer en série et à la chaîne.
Donc, c'était vraiment la démocratisation de la voiture.
Exactement.
Qui a été construite à je ne sais combien 16, de millions.
16 millions d'exemplaires.
16 millions d'exemplaires.
Et il y a un truc qui peut faire réfléchir les constructeurs aujourd'hui, c'est que c'est une voiture, chaque année, elle était moins chère que l'année précédente.
Et donc, oui, qu'ils en prennent de la graine.
Voilà.
Aujourd'hui, il en reste combien de Ford T?
Alors, des Ford T, on les évalue déjà aux États-Unis à peu près 300 000 encore, ce qui est énorme. Hein.
C'est énorme.
C'est une voiture indestructible. Et donc, il y a tout un tas d'aficionados et puis toute une économie de fabrication de pièces, de choses pour continuer à les faire rouler.
D'accord. Donc, il y a des collectionneurs en France aujourd'hui de Ford T comme vous?
Oui,
je crois.
Alors, je ne suis pas un exemple à suivre, moi j'en ai quatre, mais c'est vrai que c'est une voiture assez extraordinaire. Et il y a toute une histoire de France, hein, même dans la Ford T, il faut pas oublier que même les Ford T ont été fabriqués en France dans les années 20. Donc, c'était une voiture qui était pas chère et pratique, et elle a eu énormément de succès en France, justement, dans cette décennie après la Première Guerre mondiale.
Mais qu'est-ce qu'il y avait comme équivalent en France de voitures à cette époque-là?
Eh bien, il y avait les premières Citroën. Après, on parle toujours de voitures populaires. C'est pas vraiment populaire, parce que les voitures étaient quand même chères. Et seuls, je dirais, les médecins, les gens comme ça, pouvaient commencer à acheter des voitures.
Les notables.
Je dirais que la Ford T, il y a eu une grande chance, c'est qu'on en a acheté beaucoup pour l'armée pendant la guerre, et la guerre s'est finie plus tôt que prévu, et donc tous ces stocks achetés ont été revendus vraiment pas cher, et donc ça a permis d'équiper plein de gens en Ford T. Et quand vous regardez les cartes postales des villages des années 20 en France, et une fois sur deux, vous avez une Ford T au second plan, pour vous dire la quantité qu'il y avait, même en France.
Oui, d'accord. Donc, c'était principalement des Ford T, quelques voitures, quelques Citroën, quelques Renault.
Voilà, des Peugeot, déjà, des Peugeot, ces marques-là. Et puis, bon, des marques qui, aujourd'hui, ont disparu, hein, comme Donet, Panhard, voilà. Mmh.
Donc c'était le réseau, l'histoire des routes. On va parler un petit peu de l'histoire des routes. Vous dites qu'en France, c'était le réseau le plus dense au monde, non, de
oui,
routes.
Oui, la France, c'est le pays où il y a le réseau le plus complet de chemins. Tous les villages sont reliés les uns aux autres par des chemins. Il y en a de travers, de tous les sens. Et bon, faut voir que la France est quand même un pays qui a une histoire qui remonte sur à peu près 5000 ans. Mmh. Donc, les routes ont toujours existé, ont commencé à être structurées, je dirais, avec le pouvoir royal. À peu près au XVe siècle, quand on a créé les routes de poste, les choses comme ça, c'est là où on a commencé à avoir un réseau vraiment structuré de ville à ville, avec des grandes routes entretenues à l'époque par la corvée, c'est-à-dire les riverains étaient obligés de travailler dessus.
Ce sont les riverains qui
l'entretenaient.
Oui.
Et donc, jusqu'au XVIIIe siècle, où là, on a vraiment créé une école des ponts et chaussées, et où les routes sont vraiment devenues un instrument d'État, quoi. Mmh. En plus, la route, c'était le pouvoir central qui imposait sa façon de voir les choses, quoi, en disant, on passe par là, c'est une route royale.
C'est une route royale, ouais.
Et donc, ces routes, donc, je vous disais, le réseau était très dense. La France était hyper équipée. Et quand l'automobile est arrivée, elles étaient déjà là, mais elles étaient pas asphaltées. Donc, il y avait beaucoup de poussière, beaucoup de choses comme ça. Et puis, beaucoup de traversées de ville qui étaient très étroites, hein, qui avaient été faites pour les charrettes, des choses comme ça. Donc, il a fallu vraiment repenser un certain nombre de choses. On s'est dit... À l'époque, avant la guerre, c'est pas la peine de faire des autoroutes parce qu'on a beaucoup de routes, mais il va falloir faire des déviations, élargir, etc. Et donc, on a pris, je dirais, presque beaucoup de retard au niveau autoroutier. Et ce retard qui sera rattrapé au début des années 70, c'est ça qui fera la légende de la Nationale 7. C'est que la pauvre Nationale 7, elle était plus faite pour absorber tout le flot de vacanciers après la guerre, quoi.
Donc il y avait du coup ça une face un peu sombre avec ces embouteillages, beaucoup d'accidents.
Alors les accidents c'est terrible, hein, surtout qu'on arrive avec des chiffres au début des années 70 de 15-16 000 morts par an. Mais il faut voir aussi que là il y avait une espèce de fatalité. Toutes ces générations avaient connu les deux guerres, la première et la seconde. Donc la mort était relativement familière avec tout le monde. Tout le monde avait eu quelqu'un qui avait été tué à la guerre de 14 et tout. La Seconde Guerre mondiale, il y avait eu énormément de destruction et on n'avait pas pu prioriser les routes, l'entretien des routes. Et donc, malheureusement, les routes étaient victimes de tout ça et les accidents étaient plus considérés comme une fatalité, alors qu'aujourd'hui, c'est une révolte et c'est une bonne chose.
Oui, oui. Sauf que en ancienne, on ne met toujours pas de ceinture de sécurité.
Oui, mais on roule moins vite et puis on fait attention.
On fait attention, ouais, heureusement. On va faire une petite coupure musicale avec une chanteuse qui s'appelle Jill Barber. Et sa chanson, ça s'appelle Fine Fleur. Voilà, on écoute et on reprend après. J'ai un peu bégayé là.
Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes demain, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays. Seize printemps, petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur.
C'était Petite Fleur de Gilles Barbeur. Nous sommes sur Aligre FM 93.1. Nous sommes avec Thierry Dubois qui nous parle de sa passion de la N7, de la National 7 et des voitures anciennes. Alors, nous prenons les frères Michelin. Alors, eux, ils ont bien tiré leur épingle du jeu avec cette National 7. Ils ont développé.
Ils ont déjà créé le guide rouge.
Ils ont créé le guide rouge, le guide Michelin, qui était au départ gratuit.
Alors, c'est ce qui est amusant, le guide Michelin. Donc, il naît en 1900. Les frères Michelin sont des Auvergnats qui fabriquent des pneus. Bon, en général, on ne gâche pas en Auvergne. Et donc, quand on fait quelque chose, il faut que ça rapporte quelque part. Donc, les gens qui ont ces voitures, je dirais, à la fin du 19e siècle, qui ne sont pas fiables, ils ont peur de rouler. Et s'ils ne roulent pas, ils ne consomment pas de pneus. Donc, les frères Michelin se disent, si on veut qu'ils consomment des pneus, il faut les inciter à rouler. Et si on veut les inciter à rouler, il faut les rassurer. Et donc, ils sortent un guide où partout où ils vont, les gens trouveront un garage pour réparer leur voiture, un endroit pour acheter des pneus et un hôtel pour se reposer. Et ce qui est assez marrant, faut voir la vision qu'ils ont, puisque quand le premier guide Michelin sort en 1900, il y a à peu près 3500 voitures en circulation en France, 3500 automobiles, et le guide est tiré à 30 000 exemplaires.
Ah oui. Effectivement, oui. Voilà. Donc, ils avaient déjà prévu, ils avaient déjà anticipé.
Voilà. Et vous parliez de la gratuité du guide. Il y a une anecdote assez amusante. C'est qu'un jour, justement, Édouard Michelin, en allant visiter un de ses revendeurs de pneus, s'aperçoit qu'une table est calée avec des guides Michelin gratuits.
Ah oui,
et il se dit, oui, si on les donne et qu'ils en font ça, ça ne vaut pas
ça
le
va
coup.
Pas, ça ne va
donc,
pas
il,
le faire.
Après, il va devenir payant.
Oui, ouais, exactement. Donc, vous avez une sacrée collection, d'ailleurs, chez vous. Hein.
Mais au-delà de la collection, quand on travaille sur l'histoire des routes, il y a tout dans un guide Michelin.
Ouais,
il y a toutes les adresses, tous les plans de ville. On peut suivre année par année tout ce qui se passe dans la ville.
Oui, vous avez toutes les infos. Alors, il y a beaucoup d'anecdotes sur cette route, notamment à Pouilly-sur-Loire. Vous m'avez raconté qu'arrivé, on arrivait pour l'heure du déjeuner. Et puis, il y a de nombreux restos où on pouvait laisser les sous, comme ça, sous le comptoir, on se servait.
Alors, c'est deux choses. D'une part, on trouve globalement à peu près entre 200 et 250 km de Paris énormément de restaurants, que ce soit sur la Nationale 6 ou la Nationale 7, parce que ça correspondait globalement, dans les années 40 ou 50, quand on partait le matin de Paris, on arrivait à midi à peu près à 200-250 km. C'était le moment de faire le plein. C'était le moment de déjeuner. Et souvent, c'est là où la voiture commençait à accuser des signes de faiblesse, de chauffe ou de choses comme ça. Donc, on a toujours beaucoup de garages et beaucoup de restaurants. Alors, l'anecdote de l'argent sur le comptoir, c'est surtout ces restaurants routiers. Il faut voir que les routiers n'avaient pas bonne presse avant-guerre, parce que c'était des gens qui vivaient vraiment dans le gasoil, qui puaient le gasoil. C'était vraiment la réputation qu'ils avaient. Comme les camions étaient toujours à bricoler, les types baignaient dans le gasoil, c'est le cas de le dire. Et donc, dès qu'ils arrivaient quelque part, les gens disaient « Ah non, non, on ne veut pas de vous, ça pue le gasoil, etc. » Et puis, il y a quelques cafés qui, justement, acceptaient ce genre de routier. Donc, le bouche-oreille a fait très vite pour savoir où on pouvait s'arrêter. Et c'est justement ces restaurants qui sont devenus les célèbres routiers où les chauffeurs pouvaient s'arrêter. Effectivement, certains étaient ouverts 24 heures sur 24, et même s'il n'y avait personne au comptoir, les types laissaient les sous sur le comptoir, se faisaient leur casse-croûte, se servaient à boire et continuaient leur route.
Ah, c'est rigolo, oui. Et alors, vous avez pas mal d'anecdotes comme ça aussi, quand vous parlez des escargots de Bourgogne, qui étaient ramassés dans les vignes.
Oui, tout à fait, et puis qui sont arrivés par la route à Paris, quoi.
Qui sont arrivés par, voilà, qui ont été connus comme ça, oui. C'est Varennes aussi, l'une des plus vieilles étapes de la Nationale 7. La plupart des rois de France s'y sont arrêtés.
Ben, je vais vous dire, c'est assez émouvant, en fait, quand on prend la Nationale 7. Vous traversez le moindre village, vous dites tous les rois de France sont passés ici.
Sont passés là, par
sont
là.
Passés, ont ouais. eu à peu près la même vision.
Donc c'est ça qui vous aussi, qui vous passionne, c'est de retracer toute l'histoire de France.
Et puis c'est toujours plein d'émotions, quoi.
Ouais.
Même le pape, enfin plusieurs papes sont passés partout. Je vous dis, toute l'histoire de France a impacté d'une façon ou d'une autre la Nationale 7.
Et vous, c'est vrai que vous avez quand même à cœur de justement de défendre ce patrimoine.
Alors la Nationale 7, elle a été adulée, puis elle a été décriée parce qu'effectivement c'était un synonyme de nuisance, d'embouteillage, choses comme ça. Elle a été oubliée, délaissée, et puis maintenant on la redécouvre un petit peu, quoi, et on s'aperçoit que c'est devenu un élément patrimonial du pays.
Donc ça, vous avez, vous, à cœur, justement, de retracer cette mémoire, d'écrire, de fixer ça dans...
Alors, déjà, en fait, j'ai commencé à prendre la Nationale 7, c'était à la fin des années 80, au début des années 90, à une époque où il n'y avait pas tellement Internet. Et donc, quand on voulait se documenter sur les vieux garages, les vieilles pubs, tout ça, ben, il n'y avait rien. Donc, j'ai pris la route avec mon appareil photo parce que je savais qu'elle était riche en documentation. Et puis, c'est vrai que j'y trouvais à peu près ce que je recherchais. Et puis, j'ai quand même vu qu'il y avait des choses qui changeaient, c'est-à-dire qu'il y avait des choses qui fermaient et tout. Je me suis dit, tiens, il serait peut-être temps de commencer à photographier ce qui bouge. Et puis, j'ai commencé aussi à rencontrer des témoins, des gens sur le bord de la route, à les questionner, à leur faire raconter leur histoire. Et c'est vrai que c'est devenu une vraie passion, quoi, parce que il y avait toute une mémoire qui allait disparaître
ouais,
et qui a disparu depuis. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, je suis vraiment heureux de les avoir rencontrés et d'avoir collecté leurs souvenirs. Parce que ça fait partie. Il y a toute une histoire comme ça autour de la route.
Il y a des associations aussi de rénovation de certaines stations.
Vous savez, le patrimoine automobile, on s'en foutait. Franchement, les gens, un vieux garage, etc., pour un maire, ça avait peu d'intérêt. Maintenant, le vintage est à la mode. Hein, donc, c'est vrai qu'on aime ce genre de choses. Et beaucoup de maires se sont aperçus que les gens s'arrêtaient pour ces choses-là.
Pour le patrimoine.
Et donc, sont toujours prêts à les mettre en valeur aussi. Et ça, c'est vraiment bien.
Donc ça, c'est... Vous œuvrez aussi à ça.
Alors, il est arrivé en 2006, il y a eu un événement, c'était le déclassement. En fait, dans le cadre de la décentralisation du pays, la gestion des routes a été donnée au département. Et donc, il y a toute une grosse partie du réseau des routes nationales qui a été versée au département. Et donc, à peu près les deux tiers de la Nationale 7 sont devenus départementales. Alors, on peut le déplorer. Hein, moi, je suis le premier à le regretter. Mais d'un autre côté, ça a permis justement, alors qu'elle était intangible, à beaucoup de communes et de communautés de se rendre compte, de se dire, mais attendez, la Nationale 7, vous nous la retirez alors que c'est notre histoire. Et ça a ouvert les yeux de beaucoup de gens sur son intérêt.
Ouais.
Et pour ça, c'est une bonne chose.
Du coup, beaucoup de gens se sont mobilisés comme vous pour
Et il y a une association des maires de la Nationale 7, de la route Nationale 7 historique, de choses comme ça, qui justement travaille à mettre en valeur ce patrimoine et invite les gens à l'emprunter encore aujourd'hui.
Oui, et à trouver des financements, etc. Oui. Est-ce que vous êtes nostalgique de cette période, justement, du temps comme ça, plus lent ?
Oui, on est toujours nostalgique parce que, je dirais, la nostalgie, c'est le passé, c'est le bon côté du passé. On gomme tous les mauvais côtés, donc on garde que le bon. Donc forcément, on se dit que c'était mieux avant. Alors, c'était différent, voilà. Ce qui est incroyable, c'est que les gens, on va pas dire qu'ils avaient plus le temps, mais ils avaient pas tellement le choix. C'est qu'aujourd'hui, vous prenez la Nationale 7, d'un coup, vous apercevez que vous êtes en retard, vous prenez l'autoroute. À l'époque, il n'y avait pas le choix. Il fallait traverser les 150 communes tout au long de la route.
Et oui, parce que c'est combien de communes assez...
150.
150 communes, ouais, c'est énorme. Et combien de... c'est absolument gigantesque. Donc oui, en fait, votre nostalgie, vous en faites quelque chose de constructif ou...
Oui, il y en a qui s'en défendent, la nostalgie. Non, j'avoue que moi, je suis nostalgique. En plus, on a une période qui est un présent qui est pas drôle, un futur qui est totalement inconnu. Alors, c'est assez confortable, le passé, moi, je trouve. Et puis, en plus, on a à notre disposition des outils comme Internet, des choses comme ça, qui permettent vraiment de mettre en valeur le passé.
Oui, donc c'est aussi une manière de partager,
voilà.
De partager tout ça. Ouais, ouais.
Ah, moi, pour ça, j'avoue qu'on a un groupe Facebook où il y a 20 000 personnes. C'est vrai que c'est fabuleux, les photos, les gens. On est au courant de tout ce qui se passe chaque jour. Moi, je trouve ça génial. Et j'adore. Moi, quand je me balade, ben, y a des endroits, je m'arrête, c'est sympa. Ben, je le partage avec les autres parce que c'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas la chance comme moi de pouvoir se déplacer autant.
Ouais.
Et ça permet de voyager... chez soi.
Oui, oui. Donc, en fait, par ces réseaux sociaux, vous arrivez justement à fédérer toute une communauté.
Tout à fait. Et puis et même, cette communauté, ben, elle me tient au courant aussi de ce qui se passe, partout. Ouais. C'est super.
Oui, donc vous apprenez des choses en permanence.
Tout le temps. Il se passe tout le temps des trucs.
Il y a tout le temps quelque chose. Ouais, c'est génial. Donc, c'est la défense du patrimoine, etc. La transmission, pour vous, c'est quelque chose de très important. Vous aimez raconter des histoires, notamment dans vos bandes dessinées. Hein.
Alors, je pense qu'on a tous envie déjà de laisser une trace
de
ce qu'on a fait. Donc, quand on est dessinateur ou écrivain, c'est facile. Et puis, je vous dis, c'est vrai qu'il y a des choses parfois qui me désolent quand on détruit un vieux garage, quelque chose. Mais déjà, si on en a gardé la trace, pour moi, c'est important. C'est qu'on sait qu'il a existé, on sait qu'il était là, on en a des photos. Donc, c'est déjà ça. Voilà, on peut pas figer le monde tel qu'il était il y a 50 ans.
Oui.
La route, faut pas oublier que ça reste un instrument utile et qu'il faut faire évoluer sans arrêt pour des questions de sécurité, des choses comme ça. Et donc... voilà, à partir du moment où on a gardé la mémoire, ça peut bouger après, quoi.
Oui, je comprends. Nous allons faire une petite coupure avec Charles Trenet, Douce France. Voilà. Super.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire. Lorsque j'étais écolier, sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. J'ai connu des paysages, des soleils merveilleux, au cours de lointains voyages, tout là-bas, tout d'autres cieux. Mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route, ma rivière, ma prairie et ma maison. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur.
l'applaudit, Charles Trenet, le grand Charles Trenet, c'était Douce France. Voilà. Alors, nous sommes sur Allegri FM avec Thierry Dubois. Voilà. Vous nous partagez, vous aussi, votre bonheur de la National 7, des routes anciennes. Riviera Express 2021, arrêt à la station Ozo du Coteau, jeudi de septembre vers 21h. Ça faisait bien une heure qu'il faisait nuit. On venait de descendre la côte de Vendrange à la lueur de nos phares aussi puissants qu'une mob. Et là, surprise, tout le monde nous attendait, coupe de champagne à la main. Un grand moment. Racontez-nous.
Alors ça, c'est assez extraordinaire. C'est qu'il y avait une vieille station service, typique, une architecture typique des routes des années 50 et tout, qui était perdue, je dirais, dans les buissons à l'entrée de Roanne. Moi, je la connaissais, on l'avait explorée on n'avait aucune vision dessus parce qu'elle était vraiment coincée dans les ronces. Et puis, il y a une association locale de collectionneurs qui s'est dit, tiens, il serait peut-être intéressant de la sortir des ronces et de la mettre en valeur. Et puis donc, c'est l'association Bus, Écart et compagnie, hein, je la cite, hein, de Jean-Michel Buchet, parce qu'ils ont levé leurs manches, ils ont rassemblé les moyens et ils ont défriché tout, ils ont tout. Et puis donc, depuis 6 mois à peu près, ils la mettent en valeur en permanence et ils sont en train de la, non pas de la retaper, parce que c'est un terme que j'aime pas, mais je dirais de la restaurer pour en faire un super bâtiment patrimonial. Ouais. Et justement, début septembre, on avait un challenge avec 3 Ford T, donc des voitures des années 20. On voulait remonter sur faire de Grasse à Paris le plus vite possible. Et en fait, on voulait le faire en 2 jours, avec l'objectif, le premier jour, d'aller au moins jusqu'à cette station. Donc, ça faisait à peu près un peu plus de 500 km, 600 km. Et donc, une Ford T, c'est quand même pas rapide. On était partis tôt le matin, mais avec quelques petites pannes, des choses comme ça. Et là, on avait pris le tracé de la route bleue, c'est-à-dire qu'on avait quitté la N7 à Valence pour passer par Saint-Étienne et couper vers Roanne. Et puis, j'avais prévenu les gens de la station, et puis on est arrivé vraiment au milieu de la nuit, parce que c'est vrai que là, on est dans la campagne. Et je vous dis, surprise, ils étaient tous là, ils nous attendaient, là, ils se demandaient ce qu'on faisait, mais ils étaient tous présents pour nous accueillir. Et ça, c'est, je dirais, c'est le bon esprit de la National 7.
Oui, c'est ça, c'est que en fait, il y a toute une. C'est important pour vous, le lien d'amitié, que ça engendre la communauté, transmission, tout ça, c'est important.
Mais les gens sont fiers d'habiter au bord de la National 7, sont fiers de leur National 7 et cherchent aussi à la mettre en valeur. Il y a des fêtes de la National 7 dans plusieurs villes, à Pouglézot, à Montélimar, à Loriol, des embouteillages donc qu'on a créés à La Palisse, à Tourbe, des choses comme ça.
Oui, on va en parler, en parler.
et donc, il y a tout un tas de festivités ou d'événements festifs qui se créent autour de cette route, quoi.
C'est ça qui est incroyable. Alors, vous avez recréé, donc, avec la ville de La Palisse, les fameux embouteillages des années 1970. Et vous organisez cet événement tous les 2 ans, hein, c'est ça ?
C'est ça. Alors, donc, La Palisse, il faut voir, c'était une ville qui n'était pas déviée. C'est-à-dire que jusqu'en 2006, il y avait à peu près 3000 camions qui passaient chaque jour. Donc la ville était noire, enfumée, c'était vraiment triste. Et puis là, il y a une déviation qui était réclamée depuis plus de 50 ans, qui s'est construite. Et donc en 2006, la ville a été déviée. Et à cette occasion, le comité des fêtes et Magali Carton, je la cite aussi parce qu'elle le mérite, m'avait demandé est-ce qu'on pourrait pas faire une expo ou quelque chose. J'ai dit oui, c'est une idée, mais ce qui serait amusant, c'est de faire un dernier embouteillage de voitures anciennes dans La Palisse. Et du coup, je m'étais dit, en prévenant 2-3 copains, les clubs locaux, on rassemblera une cinquantaine de voitures, ce sera assez amusant. Puis en fait, cette première édition, c'était en 2006, il y avait 200 voitures qui étaient prêtes à traverser la ville. Et donc, ça, on a créé ce dernier embouteillage, puis il a eu un tel succès qu'en fait, c'était le premier. C'était le premier des embouteillages à l'ancienne.
Donc là, il y en a eu donc depuis 2006. On en 8, est. 8. Et donc le prochain, c'est octobre. Hein,
c'est au mois d'octobre, là, oui.
Donc pour y participer, alors il faut avoir une ancienne ou il faut avoir une voiture d'époque ? Alors, comment ça se passe ?
Il faut avoir une voiture d'avant 65. Bon, oui. Mais venez à pied, venez à vélo, venez à Solex, parce que en plus le problème quand on est en voiture, j'avoue, c'est qu'on voit rien, on est coincé dans sa voiture,
oui,
dans les embouteillages.
Ça, ça.
Alors que quand on est à vélo, ça c'est le rêve, c'est qu'on parcourt toute la ville au milieu des voitures, parce que c'est pas un défilé de voitures anciennes justement, c'est un vrai embouteillage, c'est cohérent, il y a des camions, il y a des autobus, il y a tout et ça roule dans les deux sens. Et en plus, comme la ville, la route a été déviée sur 10 km, vous avez 10 km de National 7, je dirais, de collection qui sont préservés juste pour circuler dessus à l'ancienne.
Et alors, ce qui est rigolo aussi, c'est que les gens qui viennent s'habillent comme dans les années 70.
Génial.
Donc, c'est une vraie reconstitution historique.
Oui, et puis ils font des scénettes, ils font plein de choses. Il y a une ambiance de fou, quoi. Et puis tout le monde pique-nique, tout le monde se retrouve. Et en plus, il y a un public maintenant qui vient. C'est un des plus gros événements du canton. Hein. Si ce n'est pas le plus gros, je crois.
Alors, la Palice, c'est en Auvergne, hein, c'est ça ?
La Palice, c'est marrant, c'est une ville que tout le monde connaît, mais personne ne sait où c'est. C'est pas difficile, hein. Vous descendez plein sud, 330 km, un tiers de National 7, oui. Vous êtes à La Palice, un petit peu en dessous de Moulins.
Voilà, donc les auditeurs nous ont entendus, donc s'ils veulent participer, ils peuvent, c'est ça en octobre, 8 octobre 2022. Donc c'est vrai que c'est assez tentant de voir ça, de participer à cet événement.
Et tout le monde sera le bienvenu.
Ah ben c'est gentil. Alors il y a encore plein d'autres événements que vous organisez. Il y a le Normandie Beach Race.
Alors, là je suis pas organisateur. Ça c'est des courses à l'ancienne avec des véhicules d'avant-guerre sur la plage. Alors ça peut faire peur dans les temps qui courent aujourd'hui, mais c'est vraiment bon enfant quoi. C'est des petits runs de 200 mètres. Avec des voitures, des vieilles Ford, surtout d'ailleurs des vieilles Ford, mais des voitures d'avant-guerre. Quoi. Et donc, c'est des courses qui se faisaient aux États-Unis juste après la guerre.
Oui, ouais, d'accord. Ouais. Et il y a un autre événement comme ça que vous organisez, dont on pourrait parler ce soir et inviter.
Alors, il y aura début avril à Pougues-les-Eaux la fête de la National 7, mais on écrit fête FAI. TES.
Ouais.
Prenez la National 7.
Prenez la National 7.
C'est la fête de la National 7 qui est justement un grand rassemblement d'amateurs. Et c'est le prochain événement et c'est début avril, le premier dimanche d'avril.
Bon, voilà, c'est noté. Bon, alors tout ça, vous êtes lancé dans cette recherche historique, etc. Mais ça vient quand même de votre passion pour le dessin, tout ça.
Oui, oui.
La passion du dessin des années 50.
Oui, la bande dessinée classique pour l'école belge, comme on en parlait tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est une forme de BD que j'ai adorée quand j'étais enfant et que j'adore toujours aujourd'hui. Et je suis content de la réaliser. Alors, beaucoup de gens vous diront que c'est ancien, c'est has-been, mais en fait, non, parce que vous avez toujours autant de lecteurs, toujours autant d'amateurs. Et en plus, c'est quelque chose qui est très ludique. Donc, moi qui voulais partager cette passion de la National 7 avec le dessin, c'est vraiment facile. C'est fait pour.
C'est parfait, oui. Oui, et puis et puis votre dessin est rond, coloré, joyeux,
il correspond vraiment à l'époque en plus.
Complètement, ouais, complètement. Alors donc vous avez plusieurs BD, hein, plusieurs bandes dessinées. Donc il y a le fameux Merlu, qui est une saga sur le transport routier à travers le 20e siècle et qui démarre en 1940. Hein.
Là, on a commencé par deux albums sur la Seconde Guerre mondiale. C'est avec un autre dessinateur, Jérôme Falipou. Moi, je suis scénariste là-dessus et documentaliste. Et donc, ces deux albums du Merlu, y en a un troisième qui va sortir cette année. Ça, c'est toute l'histoire de la guerre. Mais à terme, c'est une série qui devrait refaire tout le 20e siècle.
D'accord.
C'est l'histoire d'un jeune transporteur qui se retrouve plongé dans la guerre en 1940.
Quoi. Ouais, d'accord. Il y a aussi les aventures de Jacques Gipard.
Alors Jacques Gipard, c'est avec mon ami Jean-Luc Delvaux.
Oui.
C'est un journaliste qui enquête. C'est surtout sur des faits divers parce que j'aime aussi beaucoup les faits divers.
Oui, c'est ça.
Et en fait, je voulais pas que c'était autour de l'automobile. Hein. Il fallait que ce soit quand même sur les routes et les choses comme ça.
Ouais.
Mais je voulais pas que ce soit une BD automobile. Je voulais que ce soit quand même une BD policière, même s'il roule beaucoup en automobile. Et en plus, on a vraiment à cœur de reconstituer toujours l'endroit où ça se passe, c'est-à-dire qu'avec des cartes postales, avec des photos d'époque, avec des cartes, tout ce qui est dans les albums est plausible. On reconstitue la route telle qu'elle était à l'époque, des choses comme ça. Et d'ailleurs, à la fin de chaque album, il y a un plan et il y a une carte pour montrer que tout ce qui se passe dans l'album se situe à tel ou tel endroit.
Oui, parce que vous faites en fait, vous allez sur, vous faites des recherches sur le site de l'IGN,
Partout,
avec des
beaucoup de cartes postales, beaucoup de vieilles photos.
Oui.
Et puis, vous savez, vous avez un outil qui s'appelle Google Street,
oui.
Qui permet vraiment de circuler sur toutes les routes. Alors, c'est pas difficile de retirer, je dirais, entre guillemets, les choses modernes et de retrouver la route d'antan.
Donc, oui, vous aimez effectivement le côté enquête, aller fouiller, voilà, des choses historique très précise.
Et puis en plus, moi, j'adore les vieilles photos.
Oui.
Et à chaque fois, il y a des photos, je les trouve, je dis, ça sent la National 7, et c'est de retrouver l'endroit où elles ont été prises, dans quelles circonstances, et c'est des vraies enquêtes, et c'est toujours fabuleux, parce qu'on a toujours des bons résultats.
Oui, oui, oui. Et puis, il y a les chroniques de la National 7 qui racontent le quotidien de la route, la vie des automobilistes.
Alors, les chroniques, c'est des petites histoires vraies.
C'est des petites histoires, oui.
Mais plutôt que de les raconter en texte, à chaque fois, on les raconte dans une petite histoire de bande dessinée parce que c'est plus amusant, quoi.
Oui, oui, oui.
Mais j'insiste sur le fait que c'est toujours des histoires authentiques. C'est des histoires vraies sur les routes.
Oui, oui, puis ce sont des ouvrages, en tout cas, plein d'anecdotes historiques, riches en photos. Enfin, c'est très instructif, hein, comme...
Je me moque jamais de mes lecteurs. Hein. Je donne toujours le maximum.
Oui, 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 mais c'est vrai que c'est très... c'est très fouillé. On apprend beaucoup, en fait, en
c'est
lisant ces bandes dessinées. Ouais, c'est très riche. Voilà, on va faire une petite nouvelle pause. On va passer une musique, Detroit Blues Band, Walking Out the Door. Et on se retrouve tout de suite après avec mon invité.
You love me, honey. Yeah, and I believed every word you said. You told me that you love me, babe. Yeah, and I believe every word you said. You say the same thing, honey. You're lying on that other bed. I gave you everything I had, girl. Yeah, but you just won't be satisfied. You just won't be satisfied. I'm through crying now, honey. Yeah, I'm through with all your lies. Mr. Garth. Thank you.
C'était Detroit Blues Band, Walking Out the Door. Voilà, c'est une chanson du blues qui nous embarque sur la route, justement. Nous sommes avec Thierry Dubois, le passionné des routes, dont la route, dont la N7. Alors justement, il y a la N7, mais il y a d'autres routes aussi. Il y a la route, je crois que vous adorez la route Napoléon.
Ah ben la route Napoléon, c'est la route historique qu'a emprunté Napoléon quand il est revenu de l'île d'Elbe en 1815 pour remonter par Paris. Et comme il avait peur d'être arrêté par les troupes régulières, il est passé par la montagne. Et donc, par Castellane, Digne, à travers les Alpes. Et c'est une route qui, au-delà d'être historique, elle est surtout magnifique, quoi. Et c'est vraiment une des plus belles routes de France à utiliser parce que les paysages se succèdent les uns aux autres, c'est superbe.
C'est sublime.
Elle a tous les atouts, cette route.
Donc il faut la prendre. Elle fait combien de kilomètres, cette route alors? Donc une fois qu'on l'emprunte, c'est ça, on peut plus, il n'y a pas d'échappatoire.
Non, on traverse les Alpes jusqu'à Grenoble. Ouais. Oh, ça fait à peu près 400 kilomètres.
Ouais, d'accord. Donc ça, c'est un conseil que vous nous donnez, de prendre cette route pour changer un peu.
Descendre sur la côte par la Nationale 7 et remonter par la route Napoléon. C'est le sens de l'histoire.
C'est le sens de l'histoire, exactement. Il y a d'autres routes comme ça que vous nous conseillez de prendre
pour... Vous savez, il y a la Nationale 10, qui est l'autre Nationale 7, c'est celle qui conduit sur les côtes atlantiques, quoi, l'autre route des vacances. La Nationale 13, c'est Paris-Cherbourg qui emmenait à Deauville, qui emmenait sur la Manche. Voilà, ça c'est. Et puis la Nationale 20, qui est la route de l'Espagne, qui est la route la plus longue, qui descend vraiment de Paris jusqu'à l'Espagne, tout au sud, quoi.
Donc ça, c'est des routes que vous prenez la route combien de fois par an, comme ça,
Une bonne dizaine de fois.
Bonne dizaine de fois.
Bon, ça m'arrive de prendre l'autoroute, je le reconnais, mais souvent, dès que je peux, je prends une vieille route parce qu'il y a toujours des choses à découvrir.
Alors, vous partez avec quelle voiture?
Ça dépend. Alors, parfois avec une 404, c'est des vieilles voitures, mais c'est pas des voitures exceptionnelles, c'est des voitures populaires. Hein. Je veux dire, une Peugeot 404, c'est une voiture qui a 50 ans aujourd'hui. C'est facile à rouler.
C'est robuste.
C'est robuste, oui. C'est fiable. Et donc, on peut s'insérer sans problème dans la circulation moderne, donc c'est agréable à utiliser aujourd'hui, quoi. C'est pas exceptionnel.
Donc faut pas en avoir
et donc,
peur.
Non, mais on a tous les gens ont plein de bonnes raisons de pas rouler avec des anciennes, mais c'est assez facile dès que les voitures sont en bon état, il y a pas de souci. Et puis rouler en ancienne, justement, on est au rythme de la route de l'époque, quoi, et on la voit au travers du pare-brise comme on la voyait à l'époque.
Et oui, on prend le temps. En fait, savoir retrouver.
Prendre la Nationale 7, c'est prendre son temps.
C'est prendre son temps, et ça, c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Aujourd'hui, on a plus l'habitude, mais voilà, ça peut être justement un retour aux sources.
Il y a une mode en plus du slow tourisme.
Du slow tourisme, oui.
Et donc de profiter du voyage.
Oui, de pique-niquer, de s'arrêter, de visiter. Alors, est-ce que vous avez des conseils, justement, pour les gens qui voudraient prendre la route?
Alors, vous trouverez facilement sur Internet des roadbooks qui vous diront par où passer, retrouver la vieille route. C'est toujours assez simple, surtout que la vieille route, globalement, c'est toujours celle qui va le plus droit. Hein. À l'époque, elle est née sous les Romains, les gens allaient à pied, donc ils coupaient au plus court. Mais ce que je veux, c'est que les gens, ils regardent un petit peu, justement, sur Internet ou dans des livres et tout, ce qu'était la Nationale 7, de façon à ne pas la voir aujourd'hui qu'au travers, je dirais, des endroits, des zones commerciales, des stations fermées, etc. Dès qu'on étudie un peu le sujet, dès qu'on sait par où on passe, eh ben, on la voit tout à fait différemment. Et on la voit au-delà de tout ça et on rentre dans l'histoire de la Nationale 7.
Donc, le conseil, c'est de lire vos bandes dessinées qui sont bien fournies en justement.
J'ai justement le livre C'était la National 7, qui est un livre, je dirais, entre guillemets, plus sérieux, qui raconte toute l'histoire de la National 7 et comment la prendre aujourd'hui.
Oui, oui. Donc,
aux éditions Paquet.
Effectivement, c'est un bon conseil de s'instruire avant de.
Voilà, de jeter un coup d'œil sur ce qu'on va trouver, parce que sinon, on risque de passer à côté de choses intéressantes et puis d'être déçu par certains tronçons, alors qu'ils ont tous une histoire à raconter.
Ouais, ok. Est-ce que vous avez encore des choses que vous aimeriez faire autour de la route ? Est-ce que vous avez des rêves autour de ça ? Des envies ?
Ce qui est amusant, c'est que quand j'ai commencé à travailler sur l'histoire de la National 7, je me dis, d'ici quelques années, j'aurais fait le tour. Eh bien non, il y a toujours des choses à découvrir.
Ouais.
Les envies, c'est toujours de prendre des routes que je n'ai pas prises. Quoi. C'est d'aller dans des régions où je ne suis pas allé, dans les Alpes, dans les Pyrénées, parce que c'est toujours des endroits sauvegardés. Et c'est toujours des endroits riches en histoire, des zones de passage. Et c'est toujours intéressant d'y aller. Quoi.
Donc il faut y aller. Il y a plein de routes en France,
plein de nationales
à découvrir.
Et ce qui me fait plaisir, c'est que beaucoup de gens me disent, depuis que vous en parlez, depuis que vous faites ça, eux-mêmes me disent, moi je vois la route différemment. Quand je prends la route, je me dis, tiens, il y a ça qui est intéressant. Pourquoi ils sont passés là ? Parce qu'il y avait un défilé, parce qu'il y avait un pont. Enfin, c'est toujours... on voit les choses différemment, quoi.
Oui, c'est pas hésiter à interroger les gens, à parler, prendre le temps, justement, de dialoguer, etc.
Quand j'ai commencé à prendre la National 7, régulièrement, en fait, je m'arrêtais dans le café du village, et puis je disais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse ici au passé ? Et puis on m'indiquait toujours quelqu'un, et c'est vrai que c'était toujours des rencontres passionnantes.
Ah oui, c'est génial, ça. Donc c'est ça, prendre le temps, en fait, d'être curieux de tout, du patrimoine, des gens, etc. Si vous aviez un message à adresser aux jeunes aujourd'hui, lequel serait-il un message
Intéressez-vous à l'histoire du pays, parce qu'on a tellement de choses à apprendre.
Ouais.
C'est toujours intéressant. Ce qu'ont laissé les anciens, c'est toujours... c'est pas anodin. Voilà, ça fait partie, c'est un tout. On a un pays qui a 2000 ans d'histoire et c'est pas un hasard s'il est là aujourd'hui, quoi.
Donc,
toujours aborder le côté historique des choses.
Oui, pour pouvoir justement comprendre
le
monde dans lequel on vit,
c'est ça ?
Donc ça, c'est quelque chose que vous êtes en permanence, vous lisez en permanence, c'est sans fin, c'est ça ?
Oui, mais bon, c'est pas sans fin, parce que c'est... Il y a une chose qui m'amuse aujourd'hui, c'est que je vous parlais de l'âge d'or de la National 7 qui dure une trentaine d'années, mais moi, ça fait globalement 30 ans que je travaille sur l'histoire de la N7, donc j'ai passé cette période, en fait, 30 ans, je me dis, si j'avais commencé au début des années 30, je serais maintenant dans les années 60, et... j'aurais couvert toute cette histoire de National 7 et c'est vrai que c'est passionnant.
C'est passionnant. Ouais. Alors, vous avez deux garçons ?
Deux garçons.
Est-ce que vous leur avez transmis cette passion ?
J'ai pas voulu leur imposer, mais bon, par la force des choses, ils sont quand même sensibles et puis ils aiment les vieilles voitures, ils aiment les vieilles routes parce qu'ils ont baigné dedans. J'ai vraiment pas voulu leur imposer, mais bon, ça, c'est dans leur gêne, hein, sûrement.
Ça se fait. Ils conduisent aussi des anciennes, oui.
Tout à fait. J'ai vraiment voulu, en plus, partager mes voitures. Je voulais pas. Il y a rien de pire que quelqu'un qui prenne pas ses voitures.
C'est pas un musée.
Une voiture, c'est fait pour rouler. Il faut la passer aux jeunes. Il faut les faire rouler. C'est par eux que nos voitures anciennes perdureront.
Mais ils roulent comme ça dans Paris avec...
Ils le font très bien.
C'est rigolo.
Même en Ford T, à 20
même
ans.
Même en Ford T même...
Oui, c'est un spectacle assez inhabituel.
C'est drôle. Et du coup, ils sont un peu mécaniciens ou c'est une voiture qu'on peut comme ça utiliser même si on n'y connaît rien, même si on n'est pas mécanicien ?
Oui, oui, les pannes sont quand même rares et puis papa est là.
Papa est là. Donc c'est une passion qui est vraiment c'est génial de nous avoir transmis cette passion parce qu'on sent que vous êtes vraiment à fond dedans et puis qui est encore tout à découvrir. Hein,
oui, et puis je vous dis, c'est vrai qu'il faut transmettre vraiment tout ça parce que le garder pour soi, ça ne sert à rien.
Ouais,
ça sert à rien.
Ouais. Et puis surtout, voilà, là, c'est une transmission joyeuse.
Ah oui,
ça fait vraiment plaisir. De vous avoir, parce que voilà, on sent que vous êtes toujours partant, puis ça donne envie de vous retrouver sur les nombreux événements
qui sont organisés. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde de plus cette année sur la National 7.
J'espère. Alors, donc, on peut vous retrouver, pour les gens qui ont envie de vous suivre, on peut vous retrouver sur Facebook, c'est
Alors,
ça
sur Facebook, vous faites Thierry Dubois N7, ouais. Et puis il y a un groupe National 7. Ouais. Où il y a 20 000 personnes.
D'accord, donc on peut vous suivre comme ça.
Voilà.
Voilà, continuez. Merci Thierry Dubois beaucoup pour cette transmission généreuse. Nous avons fait une belle promenade à travers l'histoire des routes, de l'automobile. N'hésitez pas aussi à lire les bandes dessinées de Thierry Dubois qui sont pleins bourrés d'anecdotes, de photos, de dessins joyeux. C'est vraiment... Donc, c'est aux éditions Paquet, hein, toute votre bande dessinée. Donc, ça vaut vraiment le coup d'aller s'instruire et puis d'une manière joyeuse, voilà, d'une manière très vivante. C'est ça qui est agréable avec
Mais en tout cas, c'est moi qui vous remercie de me recevoir aussi, parce que ça me permet d'en parler.
Hein. tant mieux. Ben oui, c'est ça qui est agréable. On sent que vous aimez transmettre et c'est le but de l'émission. Hein, c'est la transmission de nos aînés. Voilà. Donc, merci beaucoup, Thierry. Et puis, moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Voilà.
When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gone.
FM fête ses 40 ans. 40 ans de création, de liberté de ton, 40 ans de découvertes et de partage en toute indépendance et sans publicité.
Pour continuer cette aventure, et parce que l'indépendance a un prix, soufflez avec nous nos 40 bougies et avec nous, donnez du sens au mot liberté.
Soutenez et relayez notre campagne de financement participatif en vous rendant sur le site de la radio et sur les pages Facebook, Twitter et Instagram d'Aligre FM.
Aligre, ça fait 40 ans que ça dure.